Bonjour, donc je suis Sabine Afflelou, je suis psychiatre. Je suis devenue de Bordeaux. Je remercie beaucoup d'ailleurs Gynécologie sans frontières de m'avoir permis de participer à cette journée sur un thème qui me passionne et dont j'ai été un petit peu porteuse dans ma région au travers d'une mission donc, qui m'a été confiée en 2008 alors que j'étais dans mes fonctions hospitalières pour faire une étude multicentrique portant sur la violence sexuelle en milieu sportif. Alors vous allez comprendre un petit peu le cheminement de tout ça. À cette époque-là, donc, j'avais créé et je dirigeais un service hospitalier rattaché au CHU de Bordeaux qui s'intéresse à la psychopathologie et addictologie dans un domaine très particulier qui est le monde du sport. En tout cas, le sport relié à ce qui se passe dans la tête, c'est assez particulier pour être encore unique en France, puisque en plus de 10 ans maintenant, il n'y a pas eu d'autres services qui ont été créés, tout au moins dans le secteur public, s'intéressant à ces questions-là. Voilà, donc le ministère de la Santé et des Sports, à l'époque, m'avait missionné en collaboration avec un service de psychologie de la santé à Bordeaux pour étudier cette question des violences dans le cadre du milieu sportif. Alors ça, je ne reviens pas là-dessus, je crois qu'on l'a largement évoqué. Simplement, pour étudier un phénomène dans un contexte particulier, il faut savoir le mettre en perspective. Et il ne s'agissait pas là de dénoncer le sport, sinon trouver à l'intérieur de ce contexte des agissements terrifiants, mais bien de le recontextualiser au milieu de violences sociales telles qu'on les connaît. Et c'est aussi important de voir ces résultats parce que ça permet après de les comparer avec ceux qu'on a trouvés dans le cadre de l'étude. Je voulais juste vous faire remarquer une chose qui a été aussi largement débattue ce matin, c'est que ce sont dans les lieux où théoriquement on doit être protégé que les violences sexuelles se produisent le plus souvent. Donc le monde du sport, en tout cas c'était une question qui n'avait pas été posée jusqu'alors en France. Il y avait une petite étude qui avait été faite auprès d'un petit échantillon d'étudiants en STAPS et donc qui concernait des personnes adultes, qui a été faite donc par Descamps qui m'a aidé dans l'élaboration de ce travail. Et puis il y avait surtout des témoignages médiatisés, plus ou moins, d'athlètes qui avaient pu faire l'objet de violences sexuelles. Et c'est en fait le livre d'Isabelle de Mongeau, Service volé, je ne sais pas si pour certains ça évoque quelque chose, où elle, avec beaucoup de pudeur et de justesse, elle parle des violences sexuelles dont elle a fait l'objet tout au cours de sa carrière de sportive de haut niveau et de la part de son entraîneur. Depuis, cette affaire a fait l'objet de jugements. Donc, quand on s'est intéressé à cette question, alors j'avoue m'y être intéressée un petit peu de fait, parce qu'on me le demandait, et ce qui relaie aussi ce qui a été dit jusque-là, c'est que moi, je n'avais pas eu dans ma formation de médecin psychiatre, à aucun moment, d'explication, d'information, encore moins de conduite à tenir, explicitée concernant les violences. Voilà, quand j'ai fait mes études de médecine et puis ensuite mes années de spécialité, on ne m'a jamais enseigné le psychotraumatisme. Et donc, j'ai dû le faire toute seule. Et donc, on s'est posé des questions à l'origine de l'étude. Est-ce que le phénomène des violences sexuelles existe dans le milieu sportif? Donc, est-ce que le sport peut être considéré comme un facteur de protection, comme aurait tendance à le faire spontanément, ou un facteur de risque? Et puis, est-ce que, si ces agissements sont présents dans ce milieu-là, ont-ils une spécificité particulière que l'on pourrait rattacher au monde du sport? Puisque c'était un petit peu la légitimité de notre service, c'était de créer des concepts spécifiques dans le champ de la psychopathologie pour les sportifs. Troubles du comportement alimentaire chez les athlètes, dépression, burn-out chez certains sportifs, addiction au dopage bien sûr, mais aussi addiction comportementale au sport, enfin toutes ces notions-là qui sont frontalières entre la psychopathologie qu'on connaît fort bien en psychiatrie, en psychologie, et puis la spécificité sportive. Alors, On a réfléchi, mais enfin, qu'est-ce qu'on a comme population finalement dans ce contexte particulier du monde sportif? Eh bien, pour la plupart, alors il faut vous dire qu'on avait une grande action préventive également et qu'on voyait plus de 400 jeunes qui étaient inscrits dans les filières d'accès au niveau, donc dans les CREPS, mais aussi dans les sections sport-études des lycées, et donc qui étaient soumis au double objectif, à la fois scolaire et sportif, donc sont nos futurs champions de demain. Et donc, dans le cadre de leur bilan, par exemple la cardiaque, l'épreuve d'effort, enfin tout ce que chaque sportif doit faire de façon préventive chaque année dans son cursus, nous avons œuvré pour qu'il puisse y avoir un bilan psychologique systématique. Et c'est la raison pour laquelle on a mis un outil en place et on a vu 400 à 500 jeunes par an régulièrement dans ce cadre-là. Donc ça nous donne un accès privilégié quand même à cette population, donc une population jeune, captive bien entendu, souvent très loin de là où habitent les parents, puisqu'ils sont concentrés dans des lieux qui sont des pôles, Pôle Espoir, Pôle France, et donc ils sont souvent à des centaines de kilomètres de leur famille. Il faut savoir que le sport, quand même, si on y réfléchit, le corps est très en avant, très exposé, il est souvent touché de façon tout à fait légitime. Par exemple, en gymnastique, les entraîneurs parent et touchent le corps des athlètes. Il y a une vulnérabilité donc particulière de par ces aspects-là. La population qu'on a été questionnée, eh bien, était en pleine, vous verrez les tranches d'âge, en pleine adolescence, et on connaît, je ne vais pas revenir là-dessus, la fragilité de ce moment-là de la vie. On savait déjà, et des personnes, des épidémiologistes comme Marie Choquet avaient déjà fait des études concernant la vulnérabilité psychopathologique entraînée par ce qu'on appelle la centration sportive, c'est-à-dire que quand on, c'est pas seulement l'intensité des heures de sport qu'on pratique par semaine ou par jour, mais c'est aussi que tout l'univers, le monde entier tourne autour, pour certains, hein, pas pour tous bien entendu, de la performance sportive, et que très souvent on retrouve donc un éloignement des lieux de socialisation où la construction identitaire peut se faire, une grande fragilité vis-à-vis des risques psychopathologiques. Donc ça, on le savait déjà. On s'est posé la question si le sport pouvait être aussi vulnérabilisant, la centration sportive, pardon, en ce qui concerne les violences sexuelles. Et puis oui, on avait déjà vu que dans ce milieu-là, il y avait des curseurs, des normes qui étaient déplacées par rapport au mode de la société, parce que avec la performance en ligne de mire comme absolue à conquérir avant toute chose finalement, et parfois hélas à tout prix, eh bien on faisait passer beaucoup de choses qui étaient totalement inconcevables dans un milieu hors sport. Donc on s'est posé la question de la performance qui pouvait couvrir un peu des agissements déviants. Et puis aussi cette chose que l'on voit, que nous tous peut-être avons déjà fait sans s'en rendre compte, c'est cette faculté que nous avons en tant que parents à confier nos enfants aveuglément à l'institution sportive, parce que le sport, c'est bon pour la santé, on le sait. C'est une école de la vie, c'est tellement de choses qui sont socialement positives qu'on ne peut pas imaginer que dans ce milieu-là, mais c'est vrai aussi pour d'autres, il puisse y avoir ce genre de dérive. Et enfin, nous avions été aussi confrontés de façon répétée dans le cadre de notre service à ce que certains auteurs ont nommé le syndrome de réussite par procuration, en analogie au syndrome de Münchhausen par procuration, qui est en fait une pathologie des parents, ou d'un des parents, qui à un moment donné, devant le talent d'un de ses enfants dans le milieu sportif, va tout abandonner, son métier, son lieu de vie, et va tout centrer absolument tout, devenir l'entraîneur la plupart du temps de son enfant champion, et va faire peser sur l'enfant une pression énorme. Finalement, et va donc par procuration vivre la réussite sportive de son enfant comme la sienne propre. Ça peut s'apparenter à de la maltraitance dans certains cas. Et puis bien sûr, je passe vite, mais certains sports ont pour culture essentielle le combat, l'écrasement, la destruction de l'adversaire, peuvent être des lieux de... En tout cas, on s'est posé la question, on privilégiait d'expression de la violence. L'organisation même du monde sportif avec des douches collectives, des vestiaires, parfois pas bien séparés entre les filles et les garçons. Quand il y a des déplacements sportifs, et parce qu'il n'y a pas beaucoup de sous, on fait beaucoup d'économies, souvent en prenant qu'une chambre d'hôtel, en faisant dormir plusieurs personnes dans le même lit, parfois même l'entraîneur dort avec un des... Enfin, voilà, toutes ces choses-là sont finalement assez connues de nous tous sans que... on puisse faire un lien vraiment, et pourtant, on verra que ce sont quand même des contextes vulnérabilisants. Dans ce monde-là, le monde du sport, eh bien, la parole n'est pas ou n'était pas très libre, on va dire, ou très libérée, ce qui ne permettait pas non plus une expression favorable. Et je souligne que là, on avait quand même affaire à un double tabou. Le tabou des violences sexuelles, bon, on a vu que ce n'était pas un tabou déclaratif, hein, mais que c'était plutôt un tabou idéologique. Et puis, le tabou imposé par le monde clos du monde du sport à haute valorisation sociale, comme on l'a vu. Voilà, évidemment, puisqu'on n'avait pas étudié le phénomène, aucun dispositif en amont ni en aval concernant ces problématiques de violence, et c'est un petit peu l'état des lieux qu'on avait quand on a mené l'étude. Alors, oui, je m'étends un petit peu sur le contexte de cette étude qui pourrait paraître un peu étonnante au départ. On a quand même, dans le monde du sport, des valeurs qui sont extrêmement... Alors que certaines ont donc dénommé virilisme, hein, c'est-à-dire que ce sont des valeurs très masculines qui sont prônées de force, hein, puisque notamment on dit qu'en toute discipline, les hommes sont plus performants que les femmes. Il y a certaines sociologues même qui théorisent sur... le fait que la domination des hommes sur les femmes s'appuierait sur le monde du sport avec ce genre de propos. La souffrance physique, mais aussi psychique, est banalisée, puisque c'est celle qu'on va rechercher en permanence en allant jusqu'à la limite, en dépassant sa propre limite et en souffrant terriblement dans son corps, mais aussi dans sa tête. Et pour avoir beaucoup étudié les troubles du comportement alimentaire dans certaines populations de sportives, je peux vous dire que c'est quelque chose qui est largement induit par... certaines cultures sportives. Et puis la fête, bon, on connaît les troisièmes mi-temps, enfin on connaît. Nous, en tant que femmes, nous n'avons pas le droit d'y rentrer, mais en tout cas, certains hommes connaissent les troisièmes mi-temps de certaines disciplines sportives comme étant très arrosées et aussi le lieu de dérive possible. Avec la place de la femme, si on devait en parler aussi, qui est très intéressante à regarder, hein, c'est soit la mère, soit la putain. Donc, dans le sport, il y avait déjà eu pas mal de travaux qui montraient qu'on avait quand même un contexte particulier, puisque typiquement, on pense aux violences dites verticales, c'est-à-dire d'un dominant sur un dominé, d'un adulte sur un enfant, d'un entraîneur sur un entraîné. Donc ça, ce sont des choses qui nous viennent tout de suite quand on pense aux violences sexuelles. Mais également, on s'est intéressé aux violences dites horizontales, c'est-à-dire des violences entre pairs, dans les groupes sportifs. Et c'est la question aussi qu'on s'est posée, est-ce que le groupe protège ou est-ce que le groupe vulnérabilise par rapport au risque de ces violences? Et donc, j'avance pour arriver sur... Oh, attendez, c'est vraiment... quel suspense. Alors, je voulais aussi vous dire un petit mot sur cette place très particulière de l'entraîneur sportif, parce qu'on n'y réfléchit peut-être pas assez. Revêtu d'une grande autorité, souvent aussi par délégation des parents, hein, qui confient leurs enfants, notamment quand ils n'habitent pas sur le même lieu et dans les filières d'accès haut niveau, il y a quasiment presque une délégation de l'autorité parentale sur l'entraîneur. L'entraîneur, il faut savoir qu'il n'est pas toujours qualifié au sens pédagogique du terme, hein, parfois c'est juste un ancien sportif. Qui a performé ou pas d'ailleurs, plutôt pas, et qui va donc avoir sous sa coupe un certain nombre d'enfants qu'il voit énormément de temps par jour, qu'il coach, dans lequel s'abîme confiance, évidemment un lien affectif, c'est indéniable, et parfois il y a des dérives, et on a pu remarquer que des dérives arrivaient notamment quand l'entraîneur se positionnait comme la personne sans qui la victoire n'était absolument pas possible. s'approprier l'athlète, mon athlète, voilà, c'est le mien, hein, et c'est là aussi on a quelque chose qui est de l'ordre de la prolongation de son propre intérieur sur une autre personne. Donc celui qui sait, hein, sans qui on ne peut pas gagner. Et puis quand il commence à s'immiscer dans la vie privée de son athlète, sur qui il voit, qui il fréquente, est-ce qu'il a une petite amie, est-ce qu'il n'en a pas. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Non, ça, ce sont des choses qui, normalement, doivent rester complètement extérieures à la pratique sportive. Voilà, et puis on voit, donc, on en a parlé aussi tout à l'heure, des atteintes en termes de ce que la loi qualifie d'atteinte en termes de violence, c'est-à-dire des actes très graves, jusqu'à des viols, qui sont commis, et c'était le cas d'Isabelle de Mongeau, qui sont commis absolument sans exercice de violence, sans agression physique, mais uniquement par un phénomène dit de grooming, c'est-à-dire de conditionnement délétère, où petit à petit, et sous l'alibi de la violence, de la performance, eh bien, l'athlète va être quasiment en état de sidération et va se laisser abuser et de façon répétitive, sans pouvoir se défendre, ce qui entraîne une culpabilité énorme ensuite, par la suite, et une incapacité aussi pour l'entourage de les croire, parce qu'en effet, c'est aussi un argument pour les prédateurs sexuels ensuite. Ils se comportent comme s'il y avait consentement. Juste pour faire un petit mot avant sur la particularité du psychotraumatisme, parce que tout à l'heure j'entendais à juste titre que c'était difficile pour les médecins généralistes parce qu'il fallait du temps pour prendre en charge une victime. Et c'est vrai, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi avoir une formation, il faut aussi être formé, et je parle en tant que psychiatre, je connais beaucoup de mes confrères, consoeurs, qui ne savent absolument pas faire, qui ne savent absolument pas rechercher et mettre en lien, c'est très important. Et donc il faut savoir qu'on est dans un domaine très particulier, parce que quand il y a eu une violence importante qui entraîne une peur intense, eh bien, il y a deux possibilités. J'aime bien ce schéma parce que on s'en rappelle facilement le trauma en F majeur. Quand on ne peut pas fuir et quand on est obligé donc et qu'on ne peut pas affronter, no flight, no fight, qu'on ne peut pas lutter, eh bien, souvent, freeze, on est complètement gelé, sidéré. Et la pensée est dans un état qu'aujourd'hui, d'ailleurs, en neuroimagerie cérébrale, on arrive à démontrer ce qui est passionnant, notamment l'amygdale, qui est un endroit du cerveau qui récupère les émotions, est quasiment en état de surchauffe. Et on a besoin de disjoncter, on a besoin d'un disjoncteur pour ne pas mourir sur le plan psychique. Et ce disjoncteur, eh bien, c'est le cortex, c'est-à-dire les capacités d'élaboration qui ne se font plus et qui se bloquent totalement. Ce qui explique les phénomènes de dissociation, ce qui explique les phénomènes de sidération et ce qui explique que bien souvent les victimes ne peuvent pas se défendre. Elles en sont physiologiquement, neurologiquement incapables à ce moment-là, sous l'effroi de l'acte de violence. Et il se produit ce qu'on appelle une fragmentation de la psyché, c'est-à-dire que pour rester en vie, l'appareil psychique est obligé, de se dissocier, de se déconnecter, de ne plus être harmonieux pour survivre. Et après, ça laisse des traces et des dégâts, notamment dans les cas des psychotraumatismes et des syndromes de stress post-traumatique qui peuvent suivre. Donc voilà, moi je voulais vous rappeler ça parce qu'on n'est absolument pas dans un domaine classique, on va dire, des troubles anxieux ou dépressifs, par exemple. Ça entraîne cela dans un second temps, mais le mécanisme du trauma, il faut bien le connaître pour pouvoir y faire face. Donc j'ai insisté beaucoup, j'en suis désolée, je vais bientôt arriver sur les résultats de l'étude, mais quand même, il faut quand même savoir qu'après un événement traumatisant dans sa globalité, il y a à peu près un quart des personnes qui vont être malades, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir métaboliser cet événement et qui vont faire un syndrome de stress post-traumatique. Dans le cadre d'un acte de violence, donc quand il y a une personne, une intentionnalité, c'est la moitié des personnes qui vont développer un syndrome de stress post-traumatique. Après un viol, c'est 80%. Et après un viol sur un enfant, c'est quasiment tous les enfants qui vont être gravement malades, gravement atteints, gravement empêchés dans leur vie future par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont éloquents. Et aussi également dire que ces réactions qui constituent le psychotraumatisme sont des réactions normales à une situation qui est anormale. La plupart du temps, ces personnes se vivent comme ayant des symptômes anormaux et dont ils ont honte, dont ils ne peuvent pas parler, et parfois n'arrivent même pas à faire le lien entre les symptômes qui les empêchent de vivre et l'agression initiale. Donc c'est vraiment un gros travail que nous avons à faire en tant que spécialistes pour recueillir tout ça, mettre en lien, identifier, déculpabiliser, remettre dans la normalité finalement ce qui arrive à ces personnes qui n'arrivent plus à vivre leur vie correctement. Alors voilà comment on avait... Alors évidemment, je vous ai passé toute la recherche internationale de littérature sur la question, parce que d'autres pays avaient déjà réfléchi sur la question. Parce qu'on est en grosse difficulté parce qu'il y a des problèmes de terminologie. Harcèlement sexuel, abus sexuel, par exemple, n'est pas retenu par la loi en France. Mais dans d'autres pays, voilà, on parle pas des mêmes choses avec les mêmes mots. Donc c'est très compliqué de faire des méta-analyses notamment. Mais ça, donc nous, on a pris le parti de parler de violences sexuelles pour notre étude, qui regroupait les agressions, les atteintes, comme je vous en ai parlé, et le harcèlement sexuel. Donc ça, c'était un peu le cadre de la loi. La seule spécificité, c'est que les exhibitionnismes et voyeurisme sont considérés comme des agressions dans la loi. Nous l'avons sorti de ce cadre par peur de surévaluer les agressions, puisque quand même dans le monde sportif, il faut bien reconnaître qu'il y a plein de situations où le corps est dévoilé, les douches, etc. Et on ne voulait pas avoir un chiffre qui soit... Donc voilà quelques éléments, de quelques résultats de cette étude. Hein. Évidemment, ce n'est pas tout parce que j'aurais débordé largement. Voilà, donc on a demandé, on s'est adressé à des jeunes et moins jeunes qui étaient donc dans un contexte sportif. Il reste 5 minutes, donc je vais aller super vite. Voilà. On leur a demandé, on avait donc mis sous la forme de 12 agissements la plupart des actes de violence sexuelle dont ils pouvaient faire l'objet, et on leur a demandé s'ils avaient déjà été dans leur vie sportive soumis, non jamais, je ne sais pas, oui une fois, oui plusieurs fois, je ne sais pas, vous avez compris pourquoi, hein, c'est la sidération, la peur, la confusion mentale, tous les mécanismes de défense qui sont là pour préserver l'appareil psychique après violence. Donc on a dit, on va pas passer à côté, on va quand même les répertorier. Alors, vous voyez le bassin de recherche, on est allé, bon, un petit peu dans toute la France. Et on a pu recueillir sur un échantillonnage progressif quand même plus de 1400 déclarations, puisque forcément on est dans le déclaratif, hein, de sportifs âgés de 11 à 35 ans, mais vous voyez que quasiment la moitié étaient des adolescents. Donc un peu plus de garçons que de filles, avec une pratique sportive s'étalant de 2 à 3 heures. Il reste ? D'accord. Alors, le principal, c'est celui-là. Donc, parmi les sportifs, il y a quand même 11% de jeunes qui déclarent avoir subi des violences dans le cadre de leur pratique sportive, avec quelques 6% de je ne sais pas, donc dont on s'est bien gardé d'interpréter, mais enfin, on les a relatés. Et les garçons, comme les filles, étaient exposées à ces violences. Donc, important, on a retrouvé également, vous voyez quand même un taux important d'agression, même si c'est exhibitionniste et voyeuriste qui revient en premier. Même si les garçons sont victimes des violences, ce sont les filles qui sont victimes des violences les plus graves, hein, graves en termes de répercussions psychologiques. Les mineurs sont plus exposés. Et on a retrouvé également une corrélation entre l'intensité de la pratique et le risque de violence. Le contexte, il s'est retrouvé purement sportif dans la plupart des cas, et de temps en temps dans des contextes satellites. Aussi bien en pratique individuelle que collective. Et on avait les vestiaires, évidemment, comme lieu. Voilà. Exactement comme dans la vie ailleurs, je dirais, ce sont les hommes qui, majoritairement, sont les auteurs des violences. Et 80%, le même chiffre exactement qu'en population autre. D'auteurs connus. 17,3%, Même si c'est peu, c'est énorme quand on pense que ce sont des encadrants qui agressent les sportifs dans ce cadre-là. Les stratégies de faire face, très vite, la minimisation, ça veut dire bof, non, c'est pas grave, c'est pas, non, on va pas en parler, ou si on en parle, on en parle à des copains, mais pas à des adultes ressources, parce que ça va passer, et puis bon, dans le milieu sportif, on met facilement la main aux fesses, c'est gentil, c'est banal, c'est des choses qui se font très très fréquemment. Ah oui, mais si on le faisait dans le tram, on vous met la main. Ah ben non. Ah ben, parce que pourquoi? Ben parce que je le connais, l'entraîneur. Mais oui, mais 80% des violences se font par des gens. Ah bon, voilà. C'est comme ça qu'on intervenait un peu auprès des jeunes. Donc on s'est posé la question de ce rôle de la minimisation. L'incrédulité de l'entourage, c'est un facteur de revictimisation, donc c'était extrêmement important de voir qu'il y avait quand même un taux important de penser qu'il n'était pas cru. Et pour la fin, 5% des victimes seulement avaient porté plainte. Donc dans la population en sport, c'est moins de 10%. On est à peu près dans des choses semblables. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas, évidemment pas diaboliser le sport, mais ce n'est pas diaboliser que de dire que dans le sport aussi, des violences peuvent venir sur le plan sexuel, des violences sexuelles peuvent survenir et qu'il faut y prendre garde et qu'elles ressemblent à peu près à ce qui se passe ailleurs avec quelques spécificités sur lesquelles je ne reviens pas. Alors là, puisqu'on devait parler du rôle des professionnels de santé, je vous avais noté, j'ai eu l'occasion de donner un enseignement à des cadres sportifs et donc c'est ultra important que eux en premier soient formés sur ces violences et comment faire face, comment repérer un enfant qui va pas bien, un avant, un après, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les manifestations possibles d'une violence qui a eu lieu, qu'est-ce qu'ils doivent faire si en effet ils repèrent, parce que ça aussi personne ne le sait, mais leur rappeler aussi leur obligation de déclaration sur le plan juridique. Les parents, hein, campagne d'information, attention, quand on confie ses enfants au monde du sport, c'est pas aveuglément. Et puis les adultes ressources, mettre dans les lieux sportifs et mettre dans chaque endroit où il y a une grosse concentration d'enfants comme ça, ou d'adultes jeunes, des personnes repérables qui sont formées au psychotraumatisme, qui sont en lien avec les associations d'aide, avec la justice, avec les médecins qui sont spécialisés. Mais surtout, pouvoir en parler, libérer la parole, c'est une des premières choses qui est important, parce que comme vous l'avez dit, il suffit de questionner bien souvent, et là on a questionné des enfants qui allaient très très bien, qui étaient dans des institutions sportives où ils se trouvaient vraiment en situation presque d'élite, hein, de la nation, eh bien on trouve quand même des choses vraiment très très inquiétantes, et pour beaucoup d'entre eux, ils n'en avaient jamais parlé à personne et jamais relaté ces violences avant l'enquête. Oui, il faut former les gens en psychotraumatologie, on ne sait pas. On ne sait pas notamment que ça s'improvise pas, il faut recueillir la parole, il faut déjà bien se connaître soi pour éviter le contre-transfert et savoir si on peut entendre certaines choses, si on peut entendre l'horreur, parce qu'il ne suffit pas d'être là, mais si on est emporté, si on a un caregiving qui est complètement emporté par exemple les modalités qu'on a d'attachement, eh bien on ne peut plus soigner, on n'est plus du tout en état. Si on dramatise ou si au contraire on minimise, on n'est plus en état. Si on materne trop, on n'est plus en état. C'est un peu compliqué, mais il faut tout simplement faire le clair avec tout ça. Rechercher activement, on l'a dit des tas de fois, hein, ça ne vient pas tout seul, mais si on le cherche, ça vient. Et c'est étonnant de voir comment les patients qui vont mal dans leur vie ont des antécédents d'agression. Et éviter des erreurs thérapeutiques. On parlait des généralistes tout à l'heure, mais je ne suis pas sûre que les généralistes sachent, par exemple, qu'il ne faut absolument pas prescrire de benzodiazépine dans un stress post-traumatique immédiat, parce que ça a un effet qui augmente la sidération et les mécanismes déjà psychiques de désintégration. Donc, il ne faut pas le faire. Il faut préférer les bêta-bloquants. Il faut attendre pour savoir si la personne va développer ou pas un syndrome de stress post-traumatique. Des tas de choses qui sont très, très spécifiques à ce cadre-là. Et dont j'espère qu'elles vont rentrer maintenant dans toutes les formations et l'enseignement pour les professionnels de santé. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir été un peu longue.